Onde Noire, we are back live.
Suite et fin. Voilà, donc on voulait juste dire un mot. Tout à l'heure, tu as parlé d'un musicien disparu. Bah, Pierre Magnan vient aussi de nous quitter à 89 ans. Pierre Magnan, c'est celui qui avait porté haut les couleurs du noir dans l'arrière-pays, vers du côté de Manosque. Voilà, des très très bons romans. On en reparlera un petit peu plus longuement à la prochaine émission et on vous conseillera quelques titres, même si à mon avis, tous sont intéressants. Voilà, Jacques, je te laisse pour un nouveau coup de cœur.
Oui, un coup de cœur.
Enfin, si t'as envie, hein.
Un coup de cœur d'un auteur irlandais qui s'appelle Owen Colfer. Alors, ça, c'est
Owen.
Owen, oui, c'est comme ça que ça se prononce, mais ça s'écrit E-O-I-N. Mais alors, ça doit être la version gaélique.
Le Scrabble, c'est impeccable, hein.
C'est la version gaélique. De toute façon, sur son site, il y a marqué se prononce Owen, donc, je le dit comme ça. Le roman s'appelle Prise directe, il est paru à la série noire chez Gallimard et il est traduit par Antoine Chénas. Donc Owen Colfer est un auteur assez bien connu en fait des jeunes ados qui aiment lire, car il a une série vedette avec un personnage récurrent qui s'appelle Artemis Fowl, qui est en gros le jeune génie du mal. C'est une saga polar et féerique.
Moitié Harry Potter,
Ouais, il y a un peu de ça, c'était bien avant. Et c'est une saga qui est déjà en 10 volumes, et le Daredevil sort en Angleterre en juillet 2012. Il est aussi connu des amateurs de science-fiction, mais de la science-fiction un peu barrée, pour avoir écrit le volume 6 de la trilogie du Guide du Routard Galactique.
Je sais pas comment on peut être connu de la science-fiction barrée, parce que
non,
si elle
amateurs,
est partie...
des amateurs.
Si elle est partie, si elle n'est plus là, donc
voilà,
on ne peut pas la connaître.
Voilà, c'est pour ça. Bah, lui, il fait le volume 6 d'une trilogie, donc il faut quand même s'y mettre un petit
ah,
peu.
Ah ouais, il va falloir réfléchir fortement, voilà. Oui.
Mais en fait, c'est quand même pour un polar ou un roman noir qu'il est aujourd'hui dans nos ondes noires. En fait, c'est plutôt un thriller hard-boil qui met en scène Daniel McEvoy, un ancien soldat, un casque bleu irlandais, qui a été renvoyé dans ses foyers après deux séjours au Liban, sur la frontière avec Israël. Il a eu une formation de sniper et de commando, donc ce qui fait que pour les armes, la manipulation des armes et pour les bagarres, il est assez fort et il va en avoir besoin. Et là, il se retrouve à travailler comme portier-videur dans un casino boîte à strip à Cloister, qui se trouve dans le New Jersey. C'est une espèce de trou du cul du monde à quelques encablures de New York. Et à cause de l'un de ses copains, un ancien du Liban aussi, il va avoir des emmerdes avec des trafiquants. Un gang de bras cassés, certes, mais extrêmement déterminé. Mais McEvoy ne l'est pas moins. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où ça commence, il va y avoir de la castagne, des échanges de coups de poing et de coups de feu. Owen Colfer.
Owen. Oh là là.
Et comme on l'a vu, un touche-à-tout en fait en littérature. Et il réussit parfaitement son passage au noir, si j'ose dire. Un roman très bien écrit, pas d'effet de style, mais une écriture qui coule. Une écriture, il faut dire, très bien servie par la belle traduction d'Antoine Chénas. Il y a tout ce qu'il faut, où il faut et quand il faut. Le rythme, l'action, l'humour, et même un peu de sexe, mais... faut dire à sa manière. Il y a des personnages complètement frappés. J'avais dit barrés pour là-haut, mais donc ils sont frappés là. Mais forcément, ils sont doublement frappés parce qu'il y a quelques bagarres. Et il réussit même à briser, disons, la cadence pour faire place, par certains moments, aux introspections plus ou moins métaphysiques du héros qui, entre deux baffes, se remémore les jours passés au Liban et certains traumatismes qui remontent à la surface et il tente de les évacuer. En fait, on en a fait une bête à tuer, puis... on l'a libéré comme ça, dans la nature, sans vraiment de suivi psychologique.
Sujet ô combien intéressant. Voilà.
Et enfin, il mêle ça très bien dans l'histoire, sans gâcher le rythme du roman. Heureusement, en fait, ce brave McEvoy, il a plutôt bon fond. Donc, il ne tournera pas mal. Ce roman m'a fait penser à certains romans d'Elmore Leonard de la série Beirut Miami ou Punch Creole. Punch Creole, c'est celui qui a été adapté
au cinéma
par Tarantino, ou alors au roman de Shirley Williams, lui donc qui était plutôt anglais, qui était paru aussi à la série noire, donc il y avait Les Allongés et Des Clopes et de la Binouze, entre autres.
Entre autres, oui.
Voilà, et ça s'approche un peu plus de Shirley Williams à cause du côté en fait British Irish en fait, où il y a des scènes de bar.
Même voilà, si ça se passe au nord de New York, voilà, parce que de toute façon il y a beaucoup d'Irlandais. Bah,
beaucoup
c'est quand
d'Irlandais.
Même la deuxième
voilà.
Calière d'Irlande.
Il y a beaucoup d'Irlandais dans le roman, mais il y a beaucoup d'Américains non irlandais d'origine aussi.
Et on peut quand même dire un mot sur Antoine Chénas, le traducteur, qui est quand même un auteur qui a émergé il n'y a pas si longtemps que ça dans le noir.
Dans la série noire
et
aussi.
Et qui est aussi un auteur série noire.
Voilà, et qui est traducteur aussi maintenant.
Que de talent,
voilà. Donc je ne voudrais pas spoiler en disant que McAvoy ne meurt pas à la fin. Et qu'en tous les cas, j'aimerais bien qu'on le retrouve dans un autre roman.
Tu auras une trilogie en 6 volumes,
voilà.
C'est sûr.
Qui sait.
Voilà, un petit peu de musique.
Donc un morceau qui tourne pas mal sur les antennes, mais il faut dire qu'il est plutôt bon. Un morceau de Marilyn Manson, mais qui est une reprise d'un vieux tube de Carly Simon. Et ce morceau, il le joue avec un guitariste plutôt de luxe, un acteur gothique hollywoodien, Johnny Depp. Dans la version originale, on murmurait que c'était Mick Jagger qui faisait les chœurs. Ici, nous avons Johnny Depp qui fait la guitare et le morceau s'appelle « You're So Vain ».
Cut.
Et vous avez loupé un duo Marilyn Manson, Philippe, notre technicien unique et en voix préférée.
Et Captain Jack Sparrow à la guitare,
voilà.
Bien évidemment.
On aurait pu avoir ça. En attendant, on reçoit avec le plus grand plaisir Jean-Marc Lehrer. Bonsoir. Allô Jean-Marc ?
Oui, allô.
Ah, bonsoir. Je vous avais perdu.
Non, moi j'entends très bien.
Bon, tout va bien ?
Oui.
Donc, je dirais qu'une fois encore, parce que je crois que vous allez devenir notre consultant et spécialiste polar de l'Amérique du Sud, vous nous emmenez dans un pays d'Amérique latine.
Oui, je vous amène en Argentine. Et pour parler d'un auteur dont j'avais peut-être déjà parlé d'ailleurs, je ne sais pas.
Je sais qu'on en avait parlé en l'antenne, mais je ne sais pas si c'est vous ou moi.
Bon, alors voilà. Donc cet auteur, c'est Ernesto Mayo, qui est donc un auteur argentin qui avait publié déjà en 2009 chez Rivage un premier roman qui s'appelait L'aiguille dans la botte de foin. Et bien le même auteur avec le même personnage est de retour chez Rivage avec Un voyou argentin qui est traduit par le même traducteur d'ailleurs qui est Olivier Hamilton. Donc on retrouve l'auteur, on retrouve surtout le personnage qui s'appelait Perro Lascano, c'est le perro c'est un surnom donc il veut dire le chien, Lascano qui était donc dans le premier roman flic à Buenos Aires en pleine dictature militaire. C'est donc un flic qui avait un drôle de boulot puisque de temps en temps on lui demandait de trouver les assassins d'un cadavre. D'un cadavre particulier, alors que tout autour, les militaires, eux, semaient des dizaines, des centaines, voire même des milliers de cadavres, que, bien entendu, pour lesquels il n'était pas question de retrouver des assassins. Et à la fin de l'aiguille, dans une botte de foin, eh ben, on laisse le pauvre Lascano dans une sale situation, puisqu'il est, il se fait tirer dessus en bas de chez lui, et on le laisse pour mort. Eh bien, il n'est pas mort. Voilà. Il n'est pas mort. Il a été recueilli par quelqu'un, on ne sait pas trop qui c'est au début. Blessé, il a été caché de ceux qui voulaient sa peau, qui étaient tous des flics et des militaires. Et il refait surface dans Un voyou argentin au moment où les militaires, justement, ont lâché le pouvoir de force, hein, c'est pas de gré, et où le président est Raoul Alfonsín. Et on s'aperçoit vite qu'avec ce président qui représente la démocratie, ben, il y a toute une nouvelle génération qui était peut-être bien là d'ailleurs avant, de battants dynamiques qui se ruent aux affaires et qui se ruent dans une société de consommation effrénée. Et en même moment que Perro Lascano se remet difficilement de ses blessures, il y a un braqueur à l'ancienne qui s'appelle Topo Miranda qui est libéré, et ben, parce que l'argent qu'il a mis de côté a disparu, pour une raison qui n'est pas très importante, dont je ne vous parlerai donc pas, il va tenter le dernier coup. Le dernier coup, parce qu'il n'a pas le choix, il faut bien qu'il vive. Et puis, dans cette même ville de Buenos Aires, ben, il n'y a pas que deux, il y a aussi des familles meurtries qui cherchent toujours les remords, puisqu'il y a eu beaucoup de... C'était une des caractéristiques sinistres de cette dictature argentine, c'est les disparus. Et dans cette ville, donc, ils cherchent les morts, et les grands-mères de la place de Mai commencent à révéler le scandale des enfants volés de la junte, c'est-à-dire ces enfants, ces grands-mères, ils savaient que leurs enfants... Quand ils ont été pris, leur fille était enceinte et que les filles ont disparu et le bébé est quelque part. Voilà, c'est dans ce contexte que le pauvre Perro Lascano refait surface et qu'on l'oblige on le force plus ou moins à enquêter sur un coup qui a été fait par Topo Miranda, justement. Et ça va être une espèce de course-poursuite dans cette ville en pleine ébullition, entre ces deux personnages qui finalement ont beaucoup plus de points communs que de points qui les séparent. Voilà pour l'histoire. Alors l'histoire, comme dans le premier, c'est un peu un prétexte pour la description d'un pays qui redécouvre la démocratie, mais qui sort d'une dictature absolument atroce, mais qui n'arrive pas à régler ses comptes, qui laisse les principaux tortionnaires intacts, et surtout les bénéficiaires du régime précédent, ben, ils se retrouvent très très vite aux commandes, parce que c'est eux qui ont l'argent. Donc ce sont les lampistes, les petits qui payent, même si ce sont des lampistes qui sont bien pourris, et qui finalement on va pas pleurer sur leur sort. Et puis on se retrouve aussi dans une situation où comme les anciens maîtres armés sont partis et n'ont plus le pouvoir, il y a une police qui est corrompue et pourrie jusqu'à la moelle, qui va se séparer en différents clans et groupes qui vont se faire une guerre sans merci pour prendre le pouvoir. Voilà. C'est pas très drôle à vu comme ça, mais c'est quand même argentin. Donc il y a des éclats de chaleur, il y a voilà, il y a du tango, il y a de la poésie, il y a Perro Lascano qui est toujours fidèle à ses valeurs, qu'il a réussi à ne pas perdre sous la dictature, qui est à la recherche d'un amour perdu aussi. Enfin voilà, on est en plein tango quand même, en même temps qu'on est dans toute cette
l'ambiance.
Voilà, dans toute cette violence. C'est un très beau roman qui finalement est tellement chaleureux et on est tellement proche de ces deux personnages, Topo Milano et Perro Lascano, que quand ça s'arrête, c'est un roman assez court, ben finalement on se dit qu'on en redemanderait bien une petite, troisième. Alors je sais pas si
on
c'est
peut
prévu.
Penser que Ernesto Malo n'a pas encore fini de nous conter son Argentine.
Voilà, c'est ce qu'on peut espérer. Surtout que cette fois-ci, il ne nous laisse pas un Perro Lascano en sang au pied de son immeuble. Donc avec un peu de chance, on le retrouvera bientôt.
Et vous savez s'il en a écrit d'autres en espagnol ?
Comme il va, je n'en ai pas vu fait mention, mais comme il va être à Toulouse en
quelques mois
prochain, on pourra lui demander.
On pourra lui poser la question.
Et on se chargera de la transmettre à nos nombreux auditeurs.
Voilà. Ouais. Deux petits commentaires. D'abord, c'est vrai que moi, j'avais trouvé dans le premier que la description de l'Argentine sous la dictature, c'était vraiment une manière originale et très véridique de décrire le quotidien des gens sous la dictature. Et le deuxième commentaire, c'est que on dirait qu'il procède un petit peu de la même manière que Manuel Vázquez Montalbán, en fait, pour décrire quand la dictature est terminée. C'est-à-dire tout ce consumérisme et ces trucs commerciaux qui vont arriver et ces requins qui, c'est pas la dictature, mais finalement, zut, on s'en sort pas si bien que ça, quoi.
Non, on s'en sort pas si bien que ça. C'est ce mélange un peu de, quand même, de soulagement que ça soit terminé.
Heureusement, oui,
c'est quand même mieux. Mais en même temps, un peu une forme de dégoût de voir que finalement, ceux qui ont le plus profité du régime précédent, ben, c'est toujours eux qui sont en manette. C'est toujours les mêmes qui sont sur le dessus, c'est toujours les mêmes qui payent, c'est toujours les mêmes qui souffrent, même si effectivement ils souffrent moins quand même. Mais c'est très difficile qu'il y ait une justice rendue et que finalement, voilà, malheureusement,
les gens
sont du côté du manche. Ouais, pour dire les choses.
C'est toujours les mêmes. Voilà. C'est pas prêt de changer, à mon avis.
Et ce n'est pas prêt de changer, et voilà. Et alors, peut-être qu'on va voir la suite des aventures de Perro Lascano pour voir si les choses changent un tout petit peu. C'est vrai qu'il y a une dimension supplémentaire qui est très caractéristique et spécifique de l'Argentine, qui sont ces vols d'enfants. Donc il y a quelques pages qui serrent un peu les tripes dans le roman autour de ça, mais toujours avec beaucoup de pudeur, et c'est pas, il cherche pas à tirer les larmes, quoi. Il nous fait pas du larmoyant, ou il en fait pas trop, il le fait très très bien, avec une écriture qui reste toujours très très près des gens, très très sans grandes envolées, mais vraiment vraiment superbe, très attachante.
Et comme il nous reste juste quelques secondes, c'est impressionnant comme tous ces auteurs d'Amérique du Sud qui nous viennent du Chili, de l'Argentine ou d'autres pays ont ce rythme du tango, de ces musiques latines, et puis cette nostalgie et cette poésie.
Oui.
Cette mélancolie, alors, ils sont vraiment très très forts pour ça.
Oui, c'est surtout les Chiliens et les Argentins. Ouais. Hein, Diaz et Terovic aussi à ça.
Ouais, exactement.
Après, côté Mexique, c'est plus survolté, on va dire.
Oui,
plus,
on reparlera de Paco une autre fois.
Et bien bientôt, puisqu'il sort une suite de Sandokan.
Ah, super, oui, je crois qu'on en parle bientôt. Voilà. À bientôt Jean-Marc et merci beaucoup.
À très bientôt.
Bonne lecture.
Au revoir.
Donc le Paco,
on en parlera dans une prochaine émission.
Dans une prochaine émission.
Le retour des tigres de Malaisie.
Voilà. Donc juste quelques secondes pour vous souhaiter de saines et bonnes lectures d'ici 15 jours. À bientôt.
Bonsoir.